Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, c'est depuis Sidi Bouzid, fief berceau de la révolution tunisienne, que le président Kais Saied s'est exprimé devant la nation pour apporter quelques éléments concernant le devenir politique du pays. Il a été confirmé qu'il ambitionne de nommer prochainement un chef de gouvernement, mais les mesures d'exception qui avaient été décrétées à la fin du mois de juillet, eh bien, ces mesures vont rester en l'état. Il va annoncer prochainement une nouvelle loi électorale. On se souvient qu'au cours de ces derniers jours, le président tunisien a reçu des constitutionnalistes pour travailler sur une future loi, une future constitution du pays. Donc une certitude, une nouvelle loi électorale aura lieu concernant la constitution de 2014. Celle-ci aussi sera vraisemblablement sujet d'une refonte parce que c'est un système mi-présidentiel, mi-parlementaire qui ne convient pas trop au président tunisien. Donc il va y avoir ces changements. Donc en fait, ce qui fait que pour l'instant, rien ne bouge. On est dans l'attente du nom du prochain chef du gouvernement. Et pour ce qui est des échéances qui viendront sanctionner la nouvelle constitution, la nouvelle loi électorale et le devenir des mesures d'exception, pour l'instant, nous n'avons pas d'échéance à ce sujet. L'Algérie, avec ses populations qui fuient le pays, ses migrants, ils sont 134 à être arrivés hier sur les côtes espagnoles. Au total, ce sont plus de 200 Algériens qui sont arrivés en Espagne en l'espace de moins de 24 heures, ce qui est un chiffre tout à fait considérable. Autre dossier algérien, celui des suspects qui ont été arrêtés dans le cadre des incendies volontaires qu'il y a eu cet été, au moins dans une trentaine de wilayas, donc 71 suspects arrêtés. En revanche, concernant le dossier des indemnisations, pour l'instant, les promesses qui avaient été formulées par les autorités de Alger n'ont pas été sanctionnées, de fait qui laisse à imaginer que les populations seront prochainement remboursées. La Libye toujours sur le chemin de la normalisation. On apprend que le secteur du tourisme va être relancé. C'est un signe tout à fait important. Les croisières entre la Turquie et la Libye vont pouvoir recommencer de telle façon à ce que la Libye puisse bénéficier de subsides, d'entrée de devises et puis également par cet accueil de touristes, ben, renouer avec la réouverture des sites, avec tous les mille et un métiers de l'activité touristique, le logement, la restauration, les guides, les souvenirs, etc. Ce sont là des activités tout à fait importantes qui existaient hein, sous la période Kadhafi, bon, qui n'était pas très développée, mais en tout cas, les nouvelles autorités de Tripoli ont à cœur de travailler sur ce domaine de l'activité touristique à développer en Libye. Et pour finir avec le Maghreb, c'est quelques mots en provenance de Mauritanie. L'ancien président Aziz est en prison. Il y a eu une perquisition sur son lieu donc d'emprisonnement. Eh bien, il a été découvert un smartphone qui était connecté très discrètement à Internet. Ce smartphone était en sa possession. Il le cachait à des fins d'utilisation, notamment pour discuter avec ses conseils judiciaires. Le téléphone portable, le smartphone, a été confisqué par les autorités mauritaniennes. Le démon du coup d'État a sonné tôt ce matin au Soudan. Il y a eu une tentative de coup d'État conduite par des militaires et des civils qui étaient liés à l'ancien système, celui de Omar el-Béchir. Ceci dans un contexte où le Soudan, les autorités de transition sont quelque peu en difficulté. Deux ans plus tard, deux ans après la chute du régime de el-Béchir, le pays est toujours en proie à des problèmes économiques importants. L'Assemblée législative avait été promise, celle-ci ne s'est toujours pas concrétisée. Il y a également l'héritage économique du système Bachir, avec cette économie toujours formelle, voire parfois quelque peu informelle. Comment réussir à muter, à passer de cette économie de Al-Bachir à une nouvelle économie qui soit plus équitable, qui soit plus juste? C'est vrai que l'année dernière, le Soudan avait signé des accords de paix avec les groupes rebelles du Darfour, ainsi que ceux des États du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, mais il y a toujours ce climat parfois de tension sécuritaire dans les provinces soudanaises. L'ensemble fait qu'il y a ce donc climat qui est peu satisfaisant et qui a amené quelques nostalgiques du système al-Béchir de tenter un coup d'État qui donc a échoué. Au Liban, c'est un vote de confiance dont a bénéficié le Premier ministre Najib Mikati, donc à la tête de son nouveau gouvernement. Il a la confiance du Parlement sur un programme économique de sortie de crise. Son cabinet a obtenu 85 voix contre 15, ce qui est malgré tout un très bon score. Maintenant, il reste le plus difficile à faire, séduire les grandes organisations internationales pour apporter de l'aide et du soutien au Liban. Il s'agit pour Mikati, dans un premier temps, d'aller travailler la piste du FMI, le Fonds monétaire international, pour que celui-ci réponde aux demandes qui ont été formulées par le Liban afin de recevoir des aides financières et permettre aux autorités de Beyrouth de passer cette très mauvaise passe qui est en train d'être vécue par le pays du Cèdre depuis quelques mois.
Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous.
Notre destination du jour est la Palestine, avec les factions palestiniennes de la bande de Gaza qui ont rejeté la proposition de l'autorité palestinienne d'organiser des élections municipales à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ceci avant la fin de l'année. Alors cette proposition qui a été formulée par Mahmoud Abbas ne reçoit pas un accueil favorable. C'est vrai que côté faction palestinienne, un doute s'est instauré depuis que le président de l'autorité palestinienne a annulé les élections législatives et présidentielles qui devaient se dérouler au cours de l'année. Cela a créé un climat qui est non propice au dialogue entre les deux espaces palestiniens. À cela s'est ajouté l'affrontement avec les forces israéliennes avant l'été. Donc, mis bout à bout, il n'y a pas aujourd'hui de processus électoral qui peut être enclenché en Cisjordanie et à Gaza simultanément. Ceci est très important, de telle façon à ce que les gens puissent avoir des représentants au niveau de leur municipalité, ce qui est tout de même la moindre des choses. On est aujourd'hui dans un contexte de relations qui sont difficiles entre l'autorité palestinienne et Gaza, avec le Hamas, c'est une chose, mais aussi les factions palestiniennes qui ont pris beaucoup de poids et d'importance, Israël allant même jusqu'à reconnaître que parfois, à l'origine des actes d'hostilité envers Israël, parfois il n'y a pas le Hamas, mais ces factions palestiniennes, notamment l'une des plus connues qui est le djihad islamique. Donc cette relation, cette scène politique palestinienne qui est en train de s'atomiser avec des factions qui sont différentes et qui prennent chacune plus d'importance au fur et à mesure qu'il n'y a pas de processus global qui est en train de poindre, de se présenter au loin, au jour, qui pourrait être une lueur d'espoir pour tout le monde. Et bien donc ces factions palestiniennes aujourd'hui, elles étaient hier totalement marginales, aujourd'hui elles prennent de plus en plus d'importance et donc elles refusent de participer à ces élections municipales, ce qui est fort regrettable parce que ça aurait été un message de cohésion entre les Palestiniens qui aurait été forcément entendu à la fois par Israël mais aussi par la communauté internationale.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.